en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
C'est là. Voilà, notre séance de l'après-midi commence en accueillant avec joie notre mon confrère Haïm Korsia, grand rabbin de France, qui ne s'est pas déplacé de beaucoup, puisque la synagogue de la rue de la Victoire, la grande synagogue, se trouve toute proche. Vous savez qu'elle a un point commun avec cette maison, la grande synagogue. C'est le même architecte, Aldrof.
Exactement.
Ah oui, absolument. Et donc, cet hôtel Thiers a été construit par lui en 1873-1874. Alors, avec le grand rabbin, eh bien, j'ai tout de même un certain nombre de points communs, outre la confraternité de l'Académie des sciences morales et politiques, le fait que nous nous soyons rencontrés sur le plateau des Glières pour la première fois, qu'il était à ce moment-là aumônier général israélite auprès de l'armée de l'air. C'est un passionné de l'armée de l'air, moi un peu aussi. Et donc, nous nous retrouvons cet après-midi pour parler naturellement de la Bible. Un mot quand même sur le grand rabbin qui a été l'élève du grand rabbin Emmanuel Shushena, que vous citez souvent, en dehors donc de vos activités d'aumônier militaire, bien, vous avez été membre du cabinet du grand rabbin Citruc et vous avez beaucoup travaillé, à la fois comme élève et comme extrêmement proche de sa pensée au sujet donc du grand rabbin Jacob Kaplan, qui fut lui aussi un confrère. Vous avez été élu grand rabbin de France le 22 juin 2014, donc il y a 3 ans. Et aujourd'hui même, vous présidiez aux cérémonies des déportés au consistoire et à la grande synagogue. Voilà. Et enfin, je voudrais souligner, parce que c'est un point très important, votre affection pour la communauté des anciens combattants, pour notre héritage, pour la France en général. Vous êtes administrateur national du Souvenir français, qui est une association d'une activité et d'une présence essentielle pour tous nos monuments. Je ne cite qu'une chose parce que c'est une initiative dont vous êtes quasiment à la source, c'est que les tombes de nos présidents de la République, les tombes de nos présidents de la République n'étaient plus entretenues par personne, elles étaient oubliées. Eh bien, c'est à l'initiative du grand rabbin de France que celles-ci ont été à nouveau redécouvertes et entretenues. Allez.
Non, si vous permettez, cher confrère, c'est en fait une idée qui nous est venu en constatant que sur les 19 présidents de la République enterrés en France actuellement, parce que le premier Louis-Napoléon est en Angleterre, il faudra d'ailleurs un jour penser à le faire revenir. Après tout, il est aussi une partie de notre histoire. Ça, c'est parce que je vois, je pense aussi. Mais, et là-bas. Mais on s'est rendu compte qu'une tombe d'un président de la République était en déshérence, dans un état calamiteux. La majorité des tombes sont entretenues par les familles.
Oui. Mais pas par l'État.
Mais pas par l'État. Et donc, au Souvenir français, le président de la République est notre autorité tutélaire. Disons que nous nous plaçons sous le haut patronage du président de la République. Et on s'est dit, puisqu'on s'occupe des soldats morts pour la France et de leurs tombes, de leur mémoire, on devrait avoir une forme de respect pour les anciens présidents sans aucune visée partisane. Donc on les a tous pris, on les a recensés, et le 14 juillet, ce sera dorénavant, voilà, on voudrait mettre cette cérémonie dans nos calendriers. Mmh. Donc tous les 14 juillet, on envoie nos délégations générales avec du monde, ou moins de monde, peu importe, sur les tombes des 19 présidents. Donc on a fait cette année quelque chose de très important à Mercy-le-Haut, qui est l'endroit où est enterré le président Lebrun. Il y a eu des cérémonies partout, dans les Yvelines pour Pompidou, à Jarnac pour le président Mitterrand, puis les plus anciens. Et moi, je suis allé au cimetière de Passy, sur la tombe du président Millerand. Ben, c'est très émouvant.
Président Millerand, on ferait un référendum questionnaire dans cette assemblée. Je ne suis pas sûr que beaucoup se rappelleraient de lui.
20, 24. Voilà, à tort, parce que c'est quelqu'un qui a fait, avant d'être président,
qui a fait
des choses formidables. Mais je trouve très important, réellement, de garder la mémoire de celles et ceux qui s'engagent un moment pour la collectivité. Et le président de la République, par nature, incarne cette collectivité.
Voilà. Alors, je voudrais commencer par en vous disant tout simplement que j'ai reçu ces jours-ci une carte de vœux de nos amis du KKL de France, donc notamment du docteur Robert Sbilly qui le préside, une carte de vœux pour me souhaiter une belle nouvelle année 5778. 5778, ça veut dire que le nouvel an juif est en effet cette semaine, si je crois bien, mercredi prochain. 5778 dans le calendrier donc hébreu, moins 2018, ça nous donne 3760 années d'écart.
D'avance.
Ou d'avance plutôt, enfin d'écart, d'avance. Donc ça veut dire effectivement 3760 années d'avance. D'où vient-elle cette avance? Quel est le repère que vous prenez? Nous, il est connu, c'est le Christ. Très bien. Mais vous, quel est votre repère pour dater ainsi votre calendrier?
Quand on prend la Bible, il y a de longs moments du texte dans lesquels il y a des énumérations d'âge de naissance. Un tel a eu son fils à tel âge. Ce même fils a eu son fils à tel âge, et ainsi de suite. On a 10 générations de Adam à Noé, 10 générations de Noé à Avram, puis Avram, c'est facile. Quand on fait le total, on arrive à 5778.
C'est ça.
Donc en fait, c'est artificiel, parce que quand nous sommes, nous, en 2017, 2018, c'est aussi artificiel. La réalité, c'est le temps long de l'humanité, est un temps qui s'est construit. Il y a un texte magnifique qui dit « Qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer le monde ?» Il faisait et il défaisait des mondes. Donc, en fait, on a une vraie chaîne historique, me semble-t-il, qui donne la profondeur et qui donne à la Bible une forme de une forme d'accompagnement de chacun et de chacune là où il se trouve. La Bible n'est pas datée de 5778 années. La Bible, c'est maintenant. Et par exemple, vous parliez tout à l'heure de mon élection en tant que grand rabbin de France. Théoriquement, je suis élu pour 7 ans. Moi, je vois les choses un peu comme le psaume 68. Je comprends que ça fait bien de citer le psaume quand on est rabbin, mais je vous assure que ça, je le porte. Le psaume 68 dit « Source de bénédiction sois-tu, Seigneur, jour après jour. »
Oui, très très joli.
Jour après jour.
Oui.
Si quelqu'un a l'orgueil de s'inscrire dans un temps plus long, Dieu sourit, si on croit en Dieu.
C'est-à-dire qu'en gros, vous qui avez créé le septennat encore.
Mais grâce à Dieu, on n'est pas passé au quinquennat.
Voilà.
Et donc, si vous voulez, s'inscrire dans le temps, oui, parce qu'on a la mémoire du temps, mais on n'a pas l'orgueil de se projeter plus loin. Et donc la Bible a vocation à nous accompagner au jour le jour. C'est-à-dire qu'en gros, qui sont mes contemporains? Vous. Mais mes contemporains, c'est Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa, Moïse, Aaron, Myriam. Des histoires profondément humaines, qui ne sont pas les contes et légendes de la Bible. Parce que ça, on trouvera toujours des contes et légendes de tellement d'endroits.
Pas tant que ça.
Ah si. Quand j'étais jeune, j'adorais lire les contes et légendes des Indiens d'Amérique. Et alors, regardez, pardon, si vous permettez.
Non, bien sûr.
C'est marrant.
On est là pour
moi,
ça.
J'étais jeune, je lisais les contes et légendes des Indiens d'Amérique. Donc moi, n'oubliez pas, c'était l'âge où on joue aux cow-boys, aux Indiens, ok ? Les Indiens, c'est les peaux rouges. Comme ça qu'on les appelle. Pourquoi ? Parce qu'ils sont cuivrés. Voilà comment, je me souviens, les contes et légendes des Indiens d'Amérique racontaient la création du monde. Moi, j'ai une idée, parce que j'ai lu dans la Bible. Bah, je me dis, c'est ça. Puis les Indiens d'Amérique, ils voient les choses un peu différemment. Ils racontent que Dieu prend de la terre d'un peu partout. Jusque-là, ça va. C'est conforme. Puis, il assemble, il fait un petit mannequin. Et puis, il le met à chauffer pour faire l'homme ou la femme. Et il le fait. Et il le fait trop cuire. Alors, il est tout noir. Alors, il dit, c'est pas parfait, c'est pas bien. Il se dit, je vais en faire un autre. Et ça, c'est l'homme noir. Voilà comment on explique. Après, il en prend un autre. Comme il a trop fait cuire la première fois, mais je vous assure, lisez dans, vous savez, les collections blanches là, avec doré, contes et légendes des Indes d'Amérique, vous verrez. Et donc, c'est comme ça que le grand Manitou crée l'homme, je vous assure. Et après, comme il a trop cuit le premier, il se dit, c'est toujours la même chose, on fait que ça. Quand on fait trop quelque chose, on le fait moins la fois suivante. Et donc, ensuite, il ne le cuit pas assez. Et il a l'homme blanc, il est tout pâle, le visage pâle. Et donc, il le met en Europe, c'est pas bien. Et puis après, il le fait un peu mieux, il fait l'homme jaune. Et puis après, il fait l'homme parfait, l'homme cuivré. Puis je me suis donc rendu compte que chaque conte et légende est auto-centré, en réalité. Chacun estimant que son histoire, son destin, la profondeur de temps, c'est la plus juste. Ben, la Bible, elle a ce site extraordinaire qu'elle convient à n'importe qui, de n'importe quelle époque, de n'importe quel lieu. Et les personnages dont je vous parlais tout à l'heure sont nos contemporains. C'est-à-dire que l'angoisse d'Abraham de ne pas pouvoir transmettre derrière lui, on la partage. La rage de Jacob, quand il est interpellé par son épouse qui lui dit « Donne-moi des enfants, sinon je suis morte », il lui dit « Suis-je à la place de Dieu ? Je fais ce que je peux. Je ne peux pas décider à la place de Dieu. » On partage aussi ce sentiment d'impuissance parfois dans notre vie. La confiance absolue d'Abraham, on peut la porter. La peur de Isaac, on peut la comprendre. La colère parfois des uns ou des autres, on peut la vivre aussi. Finalement, ils sont nos contemporains parce que la Bible, c'est l'histoire de l'homme et de la femme, de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les temps et de tous les lieux.
Mais en même temps, et c'est ça qui est, je dirais, la particularité du peuple hébreu, c'est qu'il s'identifie à la Bible depuis l'origine parce que c'est son histoire. D'où le fait que vous êtes de ceux pour qui l'histoire, l'héritage, l'affiliation est un point central. Central.
Oui, parce que, d'abord, si vous permettez, dans la mesure où on le vit, quiconque se réclame de la chrétienté le vit à travers nous. Puisque l'ancrage du christianisme dans le judaïsme, qui n'est pas si évident que ça, parce qu'il a fallu que le Concile Vatican II le rappelle. Vatican II, c'est il y a à peine 52 ans.
Ouais.
Vatican II a ceci d'extraordinaire que dans son chapitre 4, qui ne parle pas de judaïsme, chapitre 4 débute, si j'ai bonne mémoire, comme ça, en scrutant le mystère de l'Église. C'est comme ça qu'il commence. Et en se penchant sur ce qu'est l'Église, l'Église en vient à dire on ne peut pas être nous sans connaître les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, c'est la liste qui est mise dans ce quatrième paragraphe, et puis sans dire des choses évidentes, Jésus était juif, ce qui peut paraître incroyable à certains, une évidence aujourd'hui, mais inconcevable il y a 50 ans, inconcevable. Pensez que par exemple, Mgr Saliège...
1944.
Oui, mais il l'a dit en 42. Saliège est le cardinal et l'archevêque de Toulouse. En août 42, au moment de ce qu'on a appelé le réveil des consciences chrétiennes, d'ailleurs en parallèle avec le pasteur Bognert, qui au désert lance à peu de choses près le même
protestant,
appel.
Protestant, oui.
Saliège dit, fait dire dans toutes les églises de son diocèse, les juifs sont des hommes, les juives sont des femmes. Ce qui nous paraît une évidence, un truisme. Mais à l'époque, il fallait du courage non seulement pour le penser, pour l'écrire, pour le dire, et le faire dire à tous ses prêtres. Et il avait interdit aux prêtres, dans les paroles de son diocèse, il avait interdit de dire un mot avant et un mot après. Parce qu'on sait très bien qu'on peut, avec une phrase, détourner complètement un message. Il avait donc exigé que son message soit lu en chair, point. Donc, des choses évidentes. L'Église a réappris, je crois, depuis 50 ans, son ancrage dans le judaïsme, à savoir que Jésus était juif, que les apôtres étaient juifs, et que Marie était juive. Donc, il y a une nécessité, si vous voulez, de partager aussi cette histoire. Et quand on explique qu'Abraham est le père des monothéismes, il est donc par nature aussi une référence pour le monde chrétien, par nature, comme il est pour le monde musulman.
Bien sûr. Mais, effectivement, nous avons appelé ça, pendant très très longtemps, l'histoire sainte. L'histoire sainte, c'était la Genèse, point.
C'était conter légende.
Ouais, absolument.
En gros,
oui, bien sûr, oui.
C'est très juste. C'est qu'en gros, c'était l'histoire sainte, mais pas notre histoire. Et c'est en ça que le judaïsme a quelque chose d'assez particulier. Je vous parle de contemporain. C'est-à-dire que c'est notre histoire. C'est l'histoire de notre famille, la nôtre à tous. Il faut penser que ce sont nos ancêtres. Et quand on vous dit qu'est-ce que faisaient vos ancêtres, je sais pas, ils étaient fermés dans le Périgord, ils étaient, c'est pour faire plaisir à Xavier Darcos, ou ils étaient à Morette, quelque part, au pied de cette cascade magnifique. Oui, mais vos ancêtres étaient aussi bergers en terre de Canaan, ils étaient aussi Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, c'est-à-dire toute cette humanité qu'ils portaient et à laquelle on se réfère, y compris par adhésion successive, ponctuelle. C'est en cela que, par exemple, la phrase qui a bercé notre jeunesse, nos ancêtres les Gaulois, me choque pas du tout. Elle me choque pas du tout parce que nos ancêtres sont toujours une façon de nous relier à une histoire. Et quelqu'un qui décide, par exemple, je sais pas, quelqu'un viendrait maintenant se convertir au judaïsme, brusquement, quoi, ça veut dire qu'il y a deux minutes, ses ancêtres, c'est pas Abraham, Isaac, Jacob, et deux minutes après, ses ancêtres sont Abraham, Isaac, Jacob. Ça veut dire que c'est en fait une filiation reconstruite qui nous permet d'être ce que nous sommes à un moment ou à un autre. Et la Bible nous accompagne. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, je parlais des psaumes tout à l'heure, est-ce que personne n'a senti l'écho de sa vie dans les psaumes? Quand, par exemple, on lit dans le psaume 91, « Tu ne craindras pas la peur de la nuit. » Tu ne craindras pas la peur de la nuit. C'est pas « Tu craindras pas la nuit », craindre la peur de la nuit. C'est une peur dont on ne connaît même pas l'origine. C'est ce qu'on a parfois. On ne sait pas pourquoi on est tétanisé devant une situation. Il faut avoir confiance, comme le fait le roi David, qui avance. Parce qu'il sait que, comme le dit la suite de ce psaume, « Immo anochi betsara ». Avec lui, je suis toujours dans la souffrance. C'est ce que dit Dieu.
Alors, cette histoire sainte que nous avons en commun, ensuite, il y a évidemment tout le reste de la Bible, si je puis dire.
Oui.
Les protestants ont poursuivi l'étude de la Bible, pas les catholiques, jusqu'à un moment où tout le monde finit par retrouver le même texte. Ce que j'aimerais, c'est dans la filiation, dans l'histoire de la Bible, que vous nous expliquiez à partir de quel moment, pourquoi, quelle resurgence, etc. Hier, avec Alain Finkielkraut, il rappelait ce qu'il a écrit, fait inscrire sur son épée d'académicien, qui est une formule de Peggy. Et Peggy, c'est vrai, joue un grand rôle, d'une certaine manière, oui, pour rassembler, réunir les uns et les autres. Mais revenons à l'histoire sainte, l'Ancien Testament qui se limite à la Genèse, et nous manquons tout le reste. Et nous manquons les psaumes, nous manquons beaucoup, beaucoup de choses que les protestants continuent d'entretenir. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, l'idée, c'est de revenir à l'esprit, au texte et à l'esprit. C'est très important. Les protestants se fondent justement, se créent, il y a 500 ans exactement, sur l'idée qu'on a occulté le texte et qu'on a inséré entre le texte, c'est-à-dire la parole de Dieu, et nous, chacun et chacune d'entre nous, on a inséré le prêtre, les sachants. Et c'est dangereux parce que ça nous oblige à passer par eux. Si j'osais un petit commentaire rabbinique, et je vous aide même avec un petit moyen mnémotechnique pour ne jamais l'oublier. Le mot « cœur » en hébreu se dit « lev ». Lev, c'est le cœur. La valeur numérique de ce mot, c'est 32. Une fois que vous savez ça, c'est facile de vous rappeler. Dieu dit « tu dois me servir avec tout ton cœur ». Mais de manière étonnante, c'est marqué en réalité en hébreu « tous tes cœurs ». Donc, « tous tes cœurs ». Alors on explique la pulsion magnifique, le bon penchant et le mauvais penchant. Même avec nos mauvais penchants, nos pulsions, on doit servir Dieu. 32, je vous l'ai dit, c'est la valeur numérique du mot cœur. Chapitre 32, verset 32, vous voyez, chapitre 32, verset 32, vous en rappellerez, de l'Exode, il y a l'un des plus beaux versets de la Bible, peut-être. C'est juste après le veau d'or. Moïse descend du mont Sinaï, il a à la main les tables de la loi, il se rend compte que le peuple s'est livré à l'idolâtrie avec le veau d'or, il fracasse les tables de la loi par terre, et il arrive, et Dieu lui dit, j'en ai marre de ce peuple, j'en ai marre. Passe leur temps à me désobéir, je viens de leur donner les 10 commandements où il y a marqué, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et regarde ce qu'ils font. Tu sais ce qu'on fait ? On les oublie, on les efface de l'histoire, et je refais un peuple à partir de toi. Chapitre 32, verset 32, Moïse dit à Dieu, tu vas leur pardonner. Sinon, efface-moi de ton livre. En hébreu, c'est magnifique. Mechénina, de grâce, efface-moi de ton livre. Pourquoi c'est cœur, cœur, 32, 32 ? Mon interprétation, c'est qu'en réalité, la grandeur de Moïse, c'est de s'effacer dans son intermédiation du texte. C'est-à-dire que si on a toujours besoin de Moïse pour comprendre la Bible, alors nous restons des enfants. Être adulte, c'est être capable d'être autonome par rapport au texte. C'est ce que l'Église a compris, parce que l'Église est revenue au texte. Prenez un exemple historique cette fois-ci. Donc, la Bible est donnée dans une langue, probablement quelque chose qui s'apparente à l'hébreu, mais c'est un hébreu encore plus ancien. Disons, c'est en langue assyrienne, pour être très précis. Disons, les premières traductions, c'est la Septante. Elle est traduite en grec. Puis après, on a une traduction en latin, à partir de la traduction grecque, la Vulgate. On est déjà à 3 traductions. De l'assyrien à l'hébreu, de l'hébreu au grec, du grec au latin. Et à partir du latin, on commence vaguement à le transcrire dans des langues vernaculaires, des langues qu'on utilise ponctuellement. Nicolas de Lyre,
qui est
au XIIIe siècle, oui. Nicolas de Lyre reprend en réalité une traduction à partir de l'hébreu, s'inspirant des commentaires de Rashi, le grand rabbin de Troyes, grand exégèse du Talmud et de la Bible. Rashi vivait...
Différence entre Talmud et Bible.
Le Talmud, disons que c'est le commentaire de la Bible, un peu rapide. Et donc, Rashi, qui vivait de 1040 à 1105 à Troyes, dans l'Aube, a fait un commentaire d'une précision incroyable de la Bible et du Talmud. Et Nicolas de Lyre s'inspire de son commentaire pour faire une nouvelle traduction qui va servir de base à toutes les traductions. Autrement dit, dès le XIIIe siècle, on revient à la traduction originelle pour essayer de revenir au texte, y compris le livre de Jonas, par exemple, y compris le rouleau d'Esther, y compris tous ces livres qui étaient, disons, des livres de seconde zone, et y compris des textes aussi extraordinaires que les grands prophètes que sont Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et le paradoxe, c'est que on peut pas être chrétien si on n'a pas lu Isaïe, si on n'a pas lu Jérémie. Parce que toutes les annonces qui sont le fondement de la foi chrétienne se trouvent dans Isaïe, dans Jérémie. Donc, le paradoxe, c'est que le catholicisme, plutôt, s'était construit sur la parole des clercs en occultant la parole de Dieu, d'une certaine manière. On le voit d'ailleurs de manière illustrée et très juste dans le livre d'Umberto Eco, Le nom de la rose,
où
on limite l'accès au texte parce qu'il faut que ce soit la parole seule des clercs qui puisse éclairer le peuple, c'est le cas de le dire. Alors que le protestantisme rejoint la fonction du judaïsme qui dit on s'efface pour que vous soyez vous face au texte. C'est une formule étonnante. Moïse s'efface pour nous laisser face au texte. Et mon maître, le grand Manchushna, dont vous parlez à juste titre tout à l'heure, disait une chose magnifique en ces temps de pardon, puisqu'on approche du grand pardon, nouvel an, puis grand pardon. Il disait, aussi loin qu'on se trouve de Dieu, il suffit de se retourner et on est déjà face à lui. Et en fait, c'est le même principe avec le texte. Aucun et aucune d'entre nous ici ne va lire le même texte de la Bible de la même façon. Et vous savez pourquoi ? Parce que nos expériences sont différentes et qu'on met toujours nos vies dans la façon qu'on a de lire un texte. C'est valable pour Notre-Dame de Paris, c'est valable pour Les Misérables, Et c'est valable pour la Bible. C'est-à-dire que quand vous voyez, moi j'ai pu voir par exemple, un cri déchirant, Rachel, l'épouse de Jacob, qui voit sa sœur, Léa, épouse du même Jacob, qui lui donne des enfants. 1, 2, 3, 4. Et elle, elle n'arrive pas. Alors elle donne sa servante. En gros, il fait une mère porteuse, quoi. Je schématise, mais c'est à peu près ça. 1, 2, l'autre, elle s'énerve. Elle lui donne sa servante, elle aussi. 1, 2. Et Rachel, rien. Et elle hurle. Regardez le texte de la Genèse, c'est terrible. Elle hurle à Jacob. Donne-moi des enfants, sinon je suis quoi? Je suis morte. Vous ne le lisez pas de la même façon si vous avez des enfants, si vous n'avez pas d'enfants. Vous ne lisez pas de la même façon. Donc vous voyez bien que le principe de Moïse qui s'efface pour nous dire, maintenant cette loi, c'est la vôtre. Cette Torah, ce texte, c'est votre vie. C'est quelque chose qu'on peut très bien comprendre. Parce que si vous aviez dans les Misérables un apparat critique qui nous dit, voilà ce qu'il a voulu dire, voilà comment il faut penser, quelle liberté nous aurions par rapport à ce texte? Comment on interprète ce que dit l'évêque de Digne quand il parle à Jean Valjean et qui lui dit « Vous êtes ici bien plus que moi-même et avant même que vous n'entriez ici, je connaissais votre nom. » Alors, un commentateur dirait « Oui, parce que le gendarme lui avait donné son identité, machin. » Pas du tout. La suite. « Vrai, dit l'homme, vous connaissez mon nom avant que j'entre ?»« Oui, vous vous appelez mon frère. » Donc, il y a besoin qu'on entre, nous, dans le texte, face à face avec le texte. Et si on met l'interface de qui que ce soit, du prêtre, du commentateur, du rabbin, de l'imam, du pasteur, de qui vous voulez, vous perdez cette rencontre avec le texte. En fait, il y a trois faces. On s'efface pour qu'il n'y ait pas d'interface et qu'on se retrouve face au texte.
Une petite virgule, mais Jacob, là, toutes ces femmes dont vous parlez... C'est étonnant, non?
Disons que c'est déclaré, au bout de chez lui. Parce que je pourrais vous parler des rois de France et vous verrez que n'ont pas beaucoup de choses à apprendre en la matière. Disons, c'est, n'oublions pas que c'est avant le don de la Torah et que lui, il est raide dingue. Il n'y a pas d'autre mot. Et la Bible en atteste. Je peux vous trouver la référence tout de suite. La Bible atteste, il était fou amoureux de Rachel. C'est une histoire qui a des conséquences qu'aujourd'hui. Donc il est fou amoureux de Rachel, il va voir le père, chez qui il travaillait depuis 7 ans, et il lui dit, bon ben voilà, je voudrais épouser votre fille Rachel. Le père lui dit, si tu veux, d'accord, pas de problème, je préfère te la donner à toi qu'à quelqu'un d'autre. Enfin, si un jour, vous avez quelqu'un qui vous dit ça en parlant de sa fille, moi je n'ai pas trouvé que c'était une formule extraordinaire, écoute, prends-la toi plutôt qu'un autre, je préfère. Bon. Enfin, c'est comme ça que dit Laban, dit ça. Et donc, il y a les noces, et la mariée était avec un voile recouvert, pour une robe de mariée, quoi, mais avec un voile. Donc, lui, il se marie, il a sa femme au bras, il est content, tac. Noces, et le matin, il se rend compte que c'est Léa, l'aînée. Mais lui, il est amoureux de la puinée Rachel. La conséquence, c'est que de nos jours, chaque fois qu'il y a un mariage, le marié descend des nuptiales, accueille la mariée et lui soulève le voile. Pour être sûr qu'on ne lui a pas fourgué, il n'y a pas d'autre mot, la sœur. Donc lui maintenant, le malheureux Jacob, il est marié avec Léa, la grande, mais lui il voulait la petite. Alors il va voir le père, il dit, écoute, qu'est-ce que tu m'as fait? T'as pas le droit de faire ça. Il dit, chez moi petit. Enfin, je suis pas sûr qu'il avait cet accent digne de Pasqua et de Pagnol, mais j'imagine bien la scène. Chez moi petit, on marie pas la grande après la petite. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc voilà, Jacob il est marié avec Léa. Il lui dit, bon ben moi j'étais amoureux de Rachel. Eh ben, il dit, t'as qu'à travailler pour moi 7 ans encore. Il dit, ok. Donc il retravaille 7 ans. Et il épouse celle qu'il aime, Rachel. Donc il a 2, mais qu'est-ce qu'on y peut? Après, chacune des deux lui donne des concubines pour qu'il puisse avoir des enfants, puisqu'il y a un enjeu d'enfants. Et voilà. Et c'est avec ces 4 femmes qu'il fonde les 12 tribus, puisqu'il a donc avec elles 13 enfants, donc les 12 tribus.
Alors là, au fond, on a des personnages.
Pardon, si vous permettez.
Continuez. Oui.
Non, juste un instant.
Oui.
Regardez, si c'était les contes et légendes de la Bible, vous croyez qu'on aura arrangé cette histoire comme ça? On aurait imaginé Jacob qui arrive sur son fier destrier, qui voit la Rachel en train de sur sa machine à coudre quelque chose avec sa quenille. Enfin, bref, et puis il serait arrivé, il aurait demandé la main au père, ils auraient fait un beau mariage, on aurait dit il a eu 13 enfants avec elle. Mais c'est pas la vie. Parce que notre vie, on peut la raconter comme on veut, mais on la vit comme les événements nous poussent à la vivre. Et finalement, cette Bible, elle est profondément humaine, parce qu'elle montre des hommes et des femmes avec leur force, leur espérance, et leurs failles, leur fragilité.
Ça on le comprend très très bien. La Bible, dans chacun de ses personnages, est une illustration de nos vies, de nos personnages à nous, contemporains. Cela dit, en même temps, ils sont quand même très très datés historiquement, puisqu'il y a une véritable histoire. Oui. On sait qu'on est allé trouver les manuscrits de la Bible dont on se disait d'où ça vient, etc. On en a eu la vraie source avec les manuscrits de la Mer Morte qu'on n'a pas découvert il y a si longtemps que ça. Tous les travaux qui ont été faits avant, après la Renaissance sur ces textes. Donc, tout ceci fait qu'elle s'inscrit aussi dans une véritable histoire, l'histoire du peuple d'Israël. Oui. Et donc, j'aimerais également que vous reveniez un tout petit peu là-dessus.
Oui, il y a une temporalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure l'histoire de son contexte. Voilà pourquoi, par exemple, quand on lit dans la Bible des choses qui sont dures, tu rentreras en terre de Canaan, tu tueras tout le monde et machin. Il faut pondérer ça par d'abord le principe de réalité et deuxièmement le principe d'annonce. Exemple. Dans le livre des Nombres, il y a marqué la chose suivante. Si un homme, non, c'est pas dans les Nombres, c'est dans le Deutéronome, cinquième livre de la Bible, du Pentateuque. Si un homme et une femme ont un fils rebelle, glouton, qui ne les écoute pas, et qui passe son temps à regarder l'iPad, l'iPhone et la télé, enfin non, ça n'est pas marqué, mais je traduis en plus contemporain. Ah bon, je m'améliore un peu, mais en gros, ça est marqué « rebelle, il ne les écoute pas » et « glouton ». Le père et la mère se saisiront de lui, cet enfant, l'emmèneront devant le tribunal. Ils diront « voici notre fils rebelle, glouton, il ne nous écoute pas, il fait ce qu'il veut ». On le prendra, on le lapidera et tout Israël verra et comprendra. Je peux vous dire que pour la délinquance juvénile, c'est une méthode radicale. Voilà ce que dit la Bible, ok? Vous regardez, c'est marqué. Le Talmud dit « ça n'a jamais existé ». Jamais eu. Alors un rabbin un peu plus intelligent que les autres a dit « oui, mais si ça n'a jamais existé, alors pourquoi la Bible en parle ?» Réponse, parce que vous avez mal lu. Vous croyez, nous croyons tous, en fait, quand on lit ce texte, qu'il s'agit de mettre en garde contre le dérèglement des choix de l'enfant. Mais le Talmud dit « non ». Regardez, il y a marqué « le père et la mère diront, ils feront, ils mèneront le petit, ils présenteront le petit, ils parlent de la même voix ». Mais si le père et la mère ne parlent pas de la même voix, alors ce n'est pas l'enfant qui doit être mis en accusation, ce sont les parents. Or, est-ce que nous sommes réellement cohérents dans l'éducation de nos enfants? Est-ce que vraiment on n'a jamais fait ce qu'on reproche à nos enfants de faire? Moi, je vois bien, quand j'ai le malheur de dire à mes enfants « écoute, il est tard, va te coucher ». Comme toi, tu restes bien tard. D'accord. Alors, j'explique. Mais il y a toujours ce réflexe des enfants de se comparer aux parents. Vous ne pouvez pas dire à vos enfants, ne jetez pas un paquet de bonbons par la fenêtre de la voiture. Si vous passez votre temps à jeter les cigarettes, les bonbons, quoi que ce soit par la fenêtre, vous n'êtes pas crédible. Nous ne sommes pas crédibles. Et ce texte-là, il est d'une telle actualité qu'en réalité, oui, c'est daté. C'est comme l'histoire, c'est daté. Mais c'est toujours présent. La bagarre, la dissension terrible entre David et Absalom. Terrible. Est-ce que ce n'est pas finalement ce que, après, on a pu appeler le complexe d'Oedipe, où Absalom veut tuer littéralement son père? Et comment il fait? Il a un conseiller qui s'appelle Achitophel. La Bible raconte. Il est consulté par Absalom, le fils de David. Et il lui dit, il y a de la pomme, mais pas que. J'entends, c'est vrai. Parce que j'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Pardon. Malheureusement, j'ai honte, parce que si moi j'avais les bouteilles, machin. Ça... Alors, je reprends très sérieux. Absalom et David, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on se dit, mais quoi? Un fils et un père qui se battent à mort? On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Et dans l'histoire de France, et dans l'histoire du monde, et dans nos familles, dans nos vies. Ces dissensions qui sont au cœur même de ce qu'on a pu appeler le complexe d'Oedipe, ce qui est étrange. Parce que regardez, le complexe d'Oedipe, c'est le fils qui veut tuer son père, alors que nous, dans la Bible, c'est Avraham qui veut tuer son fils. Et Dieu s'interpose en lui disant, tu ne peux pas te construire sur l'écrasement de la génération suivante, même si c'est moi qui te le demande, ne fais pas ça. Parce que c'était une époque où ça se faisait. Où en fait, le fils, c'est-à-dire la génération suivante, était un danger pour la génération en place. Mais on le voit tellement aujourd'hui, dans ces combats intergénérationnels. Et donc, quand Absalom, le fils de David, veut prendre le pouvoir contre son père, il va voir le conseiller Achitophel et lui dit qu'est-ce que je peux faire pour que tout le monde me suive ? Il lui dit, personne ne te suivra. Personne ne te suivra, parce qu'ils vont se dire, un jour il se réconciliera avec son père. Et donc nous qui l'aurons suivi, on sera les ennemis et du père et du fils. Il faut donc que tu poses un acte qui montre à tous tes futurs soutiens que tu veux vraiment brûler tes vaisseaux. Et il lui conseille quelque chose de terrible qu'il va mettre en œuvre. C'est exactement la capacité de s'engager ou pas, d'être crédible ou pas. Donc ça s'inscrit dans une histoire, mais notre histoire s'inscrit dans les interstices de la grande histoire. Et c'est ça, le bonheur, si j'osais, je dirais que ce qu'on cherche tous, peu importe notre position par rapport au texte de la Bible, c'est ce qu'on cherche dans la littérature. Quand vous prenez un livre, quel qu'il soit, et que brusquement vous avez les larmes aux yeux parce que c'est votre histoire qui est racontée, votre histoire. On parlait d'Alan Finkielkraut tout à l'heure, il écrit un livre lumineux qui s'appelle Un cœur intelligent. Il a repris la formule du roi Salomon. Et il prend 5 ouvrages de la littérature française en montrant à quel point ils sont la description de l'âme de la France. Mais quand on lit ces livres, ou quand on lit la Bible, et qu'on a notre histoire sous les yeux, alors c'est ça. On est inscrit dans le livre. Et c'est le souhait qu'on va formuler au Nouvel An, là, mercredi soir.
C'est ça.
Que nous soyons inscrits dans le livre de la vie. Or, le livre de la vie, c'est la Bible.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tous nos beaux-arts, et notamment la peinture, mais aussi la sculpture, je ne dis pas la littérature de la même manière, mais sont pleins des personnages de la Bible. Est-ce que ces personnages de la Bible ont une typologie particulière, ou bien ce sont des personnages aussi complexes qu'on peut l'être ?
Je crois qu'ils sont profondément humains.
Oui.
Profondément humains. Est-ce que vous vous rendez compte ? Prenons Avraham, ça nous touche tous.
Oui, on commence par le commencement, c'est plus...
On aurait pu prendre Noé. Je peux prendre Noé, oui, c'est un peu avant.
Oui.
Ou Adam. Mais Avraham, j'aime bien
Adam,
parce que...
c'est un peu trop systématique.
Ésotérique, présent. Adam. Avraham, allez.
Oui.
Avraham n'a pas d'enfant. Sa femme, Sarah, lui dit, écoute, il y a Agar qui est là, fais un enfant à Agar, ça me va. Ok ?
Beaucoup de liberté. Hein.
Non, mais ça s'appelle une mère porteuse avec une fécondation in vivo. Bon, voilà, c'est tout. Voilà, c'est simple. C'est la bonne vieille méthode, il n'y a que ça de vrai. Alors, il fait l'enfant, il faut imaginer. Vous avez vu le film, comment il s'appelle ce film ? Incroyable. Je vais vous dire comment il s'appelle. Ah. La vie est un long fleuve tranquille.
Ah oui.
Bon, imaginez, vous savez, quand la maison, il y a la fille donc, qui découvre qu'elle n'est pas la fille des Lequesnois, mais qu'elle est la fille des Groseilles. Il n'y a que la bonne qui a le droit de rentrer. Et alors elle sort de la chambre de la petite, qui est hermétiquement close pour la mère, et elle lui dit, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais elle vous déteste. Et ce truc, imaginez, il faut imaginer Sarah, qui veut être bien gentille, qui a dit à Avraham de faire l'enfant avec Agar, donc ils ont Ishmaël, et elle n'a pas, et l'autre qui est là, hein, pouponné, machin, faut imaginer. Et là-dessus, Sarah lui dit, Avraham, vire la bonne. D'abord, arrête de virer la bonne, c'est la mère de mon fils. M'en fous, vire la bonne. Non mais attends, c'est toi qui as voulu, je t'ai rien dit moi. Faut imaginer. Regardez la Bible. Et là, il y a une phrase extraordinaire. Avraham est perdu. Et comme il a la chance de parler à Dieu, bah, il dit à Dieu, dis donc. Et Dieu lui dit, tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix. Non, attendez, calmez-vous. Il lui a pas dit, fais tout ce qu'elle te dit. Je lui dis, ah, Non, non, attends, il faut bien lire la Bible, vous voyez, il faut bien la lire. Il n'y a pas marqué, fais tout ce qu'elle te dit, marqué, écoute sa voix. C'est-à-dire, écoute sa souffrance, écoute, intériorise son problème, mais t'as pas dit de le virer. Donc, elle part, elle revient. Et puis finalement, Sarah elle-même a un enfant, à 90 ans, elle a Isaac. Donc, c'est formidable, elle est contente maintenant qu'elle a un enfant. Elle veut surtout renvoyer Agar et son fils. Et finalement, elle va le faire. Et Avraham va céder. Est-ce que c'est pas tellement humain, ça? C'est-à-dire que, comment ici, on la typologie, ils sont humains, ils sont comme nous, avec nos failles, nos peurs, nos rages, nos rancœurs et nos espérances, notre humanité incroyable. Je vous ai parlé de Léa et de Rachel, les deux sœurs que Jacob va épouser. Il y a un moment incroyable. Jacob, il connaît très bien son futur beau-père, Lavan. C'est un rusé absolu. Et il dit à Rachel, qu'il aime profondément, qu'il veut épouser, il lui dit, je connais ton père, il va essayer de me faire un truc terrible, je te donne un code, je sais pas moi ce que ça peut être, tu me tiens la main une fois, tu me gratouilles, je sais pas quoi, bref, un code. Et comme ça, je saurai que c'est toi sous la robe de mariée. Ok. Les commentaires demandent, mais alors comment ça se fait qu'il a pas remarqué ça? Eh bien, c'est que Léa, elle est emmenée sous le dé. Elle se dit, mais ils ont sûrement fait un truc. Et au dernier moment, Rachel lui donne ce code pour ne pas humilier sa sœur. C'est donc, oui, il y a aussi de l'amour. Parce que dans la vie, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'amour.
Absolument.
Et c'est valable à tous les niveaux, tout le temps. C'est valable lorsque les uns sacrifient pour les autres, lorsque... voilà, regardez par exemple, il y a un verset magnifique dans l'Exode, chapitre 4, verset 12. Moïse est appelé par Dieu pour aller libérer les Hébreux d'Égypte. Comme nous, chacun et chacune, on est appelé à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on se dit quand on est appelé? Bon, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui peut y aller. Pourquoi moi je vais prendre les coups? Je le sais, parce que à un moment, la vie a fait que, voilà, moi j'étais très bien aux armées, vous en avez parlé, avec le bonheur de l'armée de l'air, des armées, un engagement, bon bref. Mais à un moment, il faut s'engager, il faut dire « me voici ». Donc Moïse argumente avec Dieu, il lui dit « mais attends, mon Dieu, je peux pas ». Et puis regarde, je suis bègue, tiens, je bégaye. Je vais quand même pas aller, moi, libérer les Hébreux en bégayant. En termes de communication, c'est pas terrible, qu'est-ce que va dire l'AFP, la télé, ça passera pas bien. Ouais, il n'y a pas marqué ça exactement, mais c'est ce que ça veut dire. Alors, ensuite, Dieu lui dit « mais attends, arrête tes histoires, c'est moi qui décide qui est bègue, qui ne l'est pas. C'est moi qui rend les gens aveugles, sourds, muets, donc c'est bon, n'aie pas peur, je t'arrangerai ça ». Alors, mais regardez le texte, ça c'est marqué. Alors, Moïse dit à Dieu, mais mon Dieu, il y a mon frère, Aaron, il est plus âgé que moi, et lui il est en Égypte. Quoi, je vais arriver, moi le petit, je vais lui dire, pousse-toi de là que je m'y mette? Je peux pas. Regardez le verset 12 du chapitre 4 de l'Exode. N'aie pas peur, lui dit Dieu, va en Égypte, ton frère te verra, mais Samar Bedibo en hébreu. Et il se réjouira dans son cœur. C'est-à-dire que Dieu atteste qu'au plus profond de son cœur, Aaron se réjouira du succès de son petit frère. Ça vous paraît anodin?
Non.
C'est essentiel.
Non,
c'est... Essentiel, pourquoi? Vous voulez que je vous raconte la Bible?
Oui.
Et que je vous fasse pleurer tous?
Oui.
Je vais vous raconter en 2 minutes la Bible, et vous allez voir que cette histoire de frère qui se réjouit du succès du petit, c'est essentiel. Adam. Deux frères, ils s'étripent entre eux, il y en a un qui tue l'autre. Caïn tue Abel, ça commence mal. On va un peu plus loin, 10 générations plus tard, Noé a 3 garçons, Shem, Ham, Yafet. Il y en a un qui dévoile la nudité de son père, et encore si je vous racontais vraiment ce que disent les commentaires, vous aurez les cheveux qui se dressent sur la tête. Et les deux autres marchent à reculons et jettent le manteau pudique sur Noé. Ok, donc ça se bagarre entre les frères. Puis, Avraham et Lot, son neveu, ça s'étripe au point que Avraham dit cette phrase historique, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. On n'arrive plus à être ensemble sur la terre, alors on se sépare. Avraham a 2 enfants, Isaac et Ishmaël, c'est pas le grand amour au point que Ishmaël est renvoyé lui et sa mère. Isaac a deux garçons, Jacob et Ésaü, il fait triple comme c'est pas permis. Jacob a 13 enfants, il y en a 10 qui se liguent contre Joseph et qui le vendent. Et encore, ils ont fait un truc sympa, ils l'ont jeté dans un puits où il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions, ce qui n'est pas très sympa. Et donc ils le vendent à une caravane d'Ishmaélites. Et c'est une horreur absolue. Et je peux continuer comme ça. Voilà l'histoire de la Genèse en résumé. Et au début de l'Exode, juste après, voilà Dieu qui atteste que Aaron se réjouira en son cœur du succès de son petit frère. Et je crois qu'il y a quelque chose de très fort sur l'idée que finalement nos familles, dont on a parfois tendance à se dire « Quelle horreur, comment on peut se bagarrer ?» Ne me racontez pas que vous avez la famille Ingalls. Si vous êtes la famille Ingalls, vous avez de la chance. Enfin, moi, je vois les familles, je vois la mienne, je vois ce que je peux accompagner. C'est toujours compliqué, les familles. Il faut regarder la Bible qui raconte notre histoire avec les fragilités et les faiblesses, mais avec aussi les espérances et les moments extraordinaires. Et donc, ce n'est pas une façon de me consoler en me disant bah « Voilà, tant que mes frères ou voilà, ne m'ont pas vendu, c'est que c'est bien. » Non. C'est qu'il y a des tensions et qu'il y a une lutte permanente pour faire en sorte d'améliorer les choses, de transformer le monde. C'est ça ce que la Bible nous apprend. C'est qu'aucune situation n'est statique, et dans l'histoire, et dans notre histoire personnelle.
En même temps, on comprend un peu qu'on n'est pas offert la Bible aux petits-enfants, du point de vue de la morale classique, courante, etc.
Non.
Et y a cette remarque-là, à laquelle vous allez répondre. Et puis l'autre, ce sont les âges. On est étonné que des peuples aussi anciens et des âges aussi extraordinaires, 90 ans, j'enfante, 147 ans, 752 ans, et sur ces deux petites remarques.
Alors, la deuxième question, d'abord, si vous permettez.
Oui.
Ça va s'arrêter à peu près au moment de Moïse, au moment de la Torah, du don de la Torah.
C'est-à-dire du
3500
commentaire.
Ans.
Oui, du commentaire, oui.
Voilà. À partir de là, on est dans des vies contemporaines. Moïse lui-même vit 120 ans. Dieu dit, je veux plus que les gens vivent plus de 120 ans, parce qu'ils ont l'impression de vivre toujours. Je suis d'accord. Mathusalem, 969 ans,
c'est, ça, oui.
C'est joli,
oui.
Mais en termes de retraite, il faudrait vraiment que là, il y ait une réforme, parce que ça passera jamais, sinon avec ça. Non, mais c'est vrai, si on vit 969 ans, il y aura un problème à un moment ou à un autre. Bon, ou alors on repousse l'âge de la retraite à 900 ans, j'espère qu'il n'y a personne de la CGT ici, parce que 900 ans, là, il y aurait quand même quelques personnes dans la rue pour manifester. Donc là, disons que peut-être qu'on ne connaît pas le potentiel de l'humanité, mais Dieu a limité, c'est dans la Bible, j'ai limité, je ne veux plus que l'homme ait l'orgueil de se penser éternel.
D'accord.
Regardez-nous déjà, nous,
avec qui sommes nous. Académiciens,
oui, mais
immortels.
Mais justement, si on a besoin de le clamer, c'est qu'on en rêve tellement.
Et voilà.
Non, mais c'est ça. C'est que moi, j'avais été percuté par un titre de film qui s'étalait sur les panneaux des bus. Souviens-toi que tu es mortel. C'est exactement ce que l'esclave susurre à l'oreille de César au moment de son triomphe. Souviens-toi que tu es mortel. Parce que sinon, on est tellement dans le mouvement de la vie qu'on oublie ce moment. Et donc, on oublie de se construire aussi par rapport à cela. Sauf si on a des rituels religieux qui nous amènent, au moment d'aller dans un cimetière, à réfléchir à notre propre finitude. J'ai le sentiment que cette idée d'éternité est un risque, parce qu'il faut avoir conscience de notre fin, et donc qu'on a des choses à faire.
La
première
morale,
question...
Oui.
Sur
la morale.
Oui. La première question, elle est très, très forte et très juste. Mais on ne peut pas écrire une histoire qui soit un conte. Je l'ai dit tout à l'heure, un conte intelligent,
oui.
Qui fasse abstraction de la véritable vie des personnes. On se construit aussi avec l'humanité telle qu'elle est. Mais ce qu'on, comme, de manière, ça c'est général, ce qu'ont les patriarches et les matriarches, et ils ont les personnages emblématiques de la Bible, c'est qu'avec ce qu'ils sont, ils arrivent toujours à donner le meilleur d'eux-mêmes. Prenons un exemple simple. Simple, mais très violent, c'est le cas de dire fort. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Pinchas. C'est à la fin du quatrième livre de la Bible. Il est le fils d'Élazar, lui-même fils d'Aaron, le grand prêtre. Donc c'est la tribu des prêtres. Il est doté d'une rage, d'une violence incroyable. Au point qu'un jour, les Midianites viennent détourner le peuple de la voie et elle couche avec beaucoup de gens du peuple, et une princesse de Midian couche avec un prince. La princesse s'appelle Cosbi, fille de Tsour, et elle couche avec un prince qui s'appelle Zimri, fils de Salou, aux yeux de tous, devant le tabernacle. Moïse est tétanisé, Aaron se jette à terre, personne ne sait quoi faire. Pinchas prend un javelot, les embroche tous les deux, et la plaie s'arrête. Parce que tout le monde se dit, mais oui, c'est pas possible qu'on laisse faire ça. Et les commentaires, et Dieu dit, voici, je donne à cet homme une alliance de paix. Et c'est pour ça que les prêtres vont être les Cohen, la fameuse tribu de Cohen. Pourquoi ? Parce qu'il a canalisé sa rage, sa violence, pour en faire quelque chose d'utile. Et il n'a pas été victime, d'une certaine manière, du déterminisme attaché à sa violence. Sa violence et notre violence, ça veut dire. On doit en faire quelque chose. C'est ce que moi j'aime bien cette phrase de Rétif de la Bretonne, qui décrit à mon sens cela de manière très juste. Il expliquait que, c'est le grand principe, est-ce que les efforts permettent de changer ce qui est inné ? Oui, parce que Rétif de la Bretonne disait, le travail produit des inégalités justes. Et donc les personnages de la Bible, pour les jeunes, montrent que le travail sur eux-mêmes produit un côté atypique à ces personnages de la Bible, mais c'est juste, parce que c'est la récompense de leurs efforts. Et je crois que ça, c'est une morale parfaitement accessible aux jeunes.
Je pense que c'est une pensée du grand rabbin Shushnak, qui a été votre professeur, si je puis dire, qui disait, si un verset de la Bible ne dit pas quelque chose de ta vie, c'est que tu l'as mal lu, relis-le. C'est un peu la consécration de tout ce que vous nous avez dit.
Exactement. C'est que chaque verset doit s'adresser à nous et nous permettre de nous transformer ou de voir le monde différemment ou de moins juger les autres. Parce qu'on a cette facilité de juger les autres. Alors regardons la Bible, où les faibles sont jugés par les puissants, et Dieu leur amène, et leur apporte, leur offre le réconfort, et la grandeur ensuite. Et donc c'est une façon de comprendre que chaque verset s'adresse à nous, aujourd'hui.
Alors, dernière partie de cette conversation, c'est naturellement celle qui vous associe à elle, et donc Monsieur Pierre Charot va vous distribuer le micro pour les quelques questions que vous voudriez poser au grand rabbin de France, Haïm Korsia. Alors, qui sont les heureux bénéficiaires du micro ? Madame qui se trouve en effet tout à fait à droite là-bas. Oui. Merci Aziz.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette histoire de génération d'après qui fait peur à celle d'avant, avec des exemples, s'il vous plaît.
Il y a un verset. Il y a deux versets dans la Bible qui sont contradictoires. Le premier, c'est dans les 10 commandements. Dieu fait peser les fautes des pères sur les enfants à la 3e, à la 4e génération. Et il y a un autre verset dans la Bible qui dit, les pères ne mourront pas pour les fautes des enfants et les fils ne mourront pas pour les fautes des pères. Comment c'est réconciliable ? En gros, est-ce qu'on porte les fautes de nos pères ou pas ? Est-ce que nous, quand on fait quelque chose de mal, on dégrade la vie postérieure de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. Les commentaires disent, ce n'est pas irréconciliable. Si les enfants continuent les dérives et les errements des pères, alors ils payent eux aussi pour les fautes. En revanche, si les enfants ne commettent pas les fautes des pères, il n'y a aucune raison qu'ils payent pour eux. Mais on voit bien qu'il y a un enjeu majeur de transmission. C'est Wiesel, et Wiesel disait cela, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Donc l'enjeu, c'est que les générations suivantes ont cette responsabilité de recevoir la transmission et à leur tour de la transmettre. J'avais un grand rabbin éminent qui était l'ancien grand rabbin de Paris, paix à son âme, le grand rabbin Jaïs, un homme formidable, qui disait, qui est juif ? C'est une grande question sur laquelle on a glosé pendant des milliers d'années à peu près. Qui est juif ? Lui, sa réponse, je la trouve lumineuse, est juif celui dont les petits-enfants sont juifs. Ça veut dire, on n'est pas dans savoir la mère. est juif celui qui a transmis à ses enfants et qui a transmis la capacité de transmettre. C'est donc chaque fois actif. Maintenant, je vous pose une question mathématique. Mathématique est forte, attention, c'est du... Donc, celui-là, on sait qu'il est juif si ses petits-enfants sont juifs. OK ? Parce que là, vous êtes d'accord et que le grand-mère jaillisse. Mais comment je sais que son petit-fils ou sa petite-fille est juive ? Si lui-même, ses petits-enfants sont juifs. Et comment je sais que si les petits-enfants des petits-enfants sont juifs, si eux-mêmes ont des petits-enfants, et etc. Ça veut dire qu'en réalité, l'histoire de Abraham, Isaac et Jacob n'est pas finie. Nous sommes encore en train de garantir l'histoire. C'est ce que Dieu dit. Lorsque, à un moment, les anges disent à Dieu, mais tu ne vas quand même pas donner la Torah aux hommes. Regarde ce qu'ils vont en faire. Ils vont la mépriser, ils vont la rejeter, ils vont la fouler aux pieds, ils vont la mépriser. Tu ne peux pas faire ça. Alors Moïse dit aux anges, mais vous avez un père, vous avez une mère? Non. Bah, il y a marqué dans la Bible, honore ton père et ta mère. Donc vous n'êtes pas concernés. Vous êtes jaloux? Non. Bah, parce qu'il y a marqué dans la Bible, n'envie pas. Donc la Bible, elle est faite pour les hommes et les femmes humains, avec des faiblesses et des forces. Alors Dieu dit, ok, pour cette génération peut-être, mais moi j'ai confiance, cette formule en hébreu, elle est lumineuse, merveilleuse. Tinokot shelbet rabban shelohatu. Je vous donne la Torah pour les enfants des écoles qui n'ont pas encore fauté. C'est-à-dire que quand le Talmud dit le monde ne tient que par le souffle des enfants qui étudient, c'est comme s'il y avait un combat permanent entre les fautes que nous commettons et le souffle d'espérance que portent nos enfants. Et donc ces deux générations s'opposent et Dieu dit je fais confiance à les générations montantes. Mais je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, les conflits intergénérationnels sont au cœur des grandes problématiques de la société. C'est valable en politique, enfin c'était valable jusqu'à il y a quelques mois où là, parce que moi, il y en a qui ont pris une claque générationnelle, c'est important. Et puis, c'est valable dans les entreprises, c'est valable en tout lieu, en tout temps. Regardez, par exemple, les héritages. On est en train de réfléchir maintenant à un héritage qui sauterait une génération. Parce que, avec l'allongement de la vie, grâce à Dieu, les gens héritent quand ils ont 70 ans, voire plus. 70 ans, vous n'avez plus besoin d'acheter la maison et les couches pour les bébés, et enfin, ce qui à un moment permettait de relancer une vie, y compris économique. Donc on est en train de se dire, on va chanter une génération pour permettre aux petits-enfants d'hériter. C'est donc bien qu'il y a un enjeu majeur de l'engrenage, l'engrainement des générations, y compris dans la Bible.
Madame.
Je voulais vous demander ce que vous pensiez du paradoxe qu'il y a entre l'économique et le social. Il me semble que la Bible s'y intéresse beaucoup et que c'est un de nos grands sujets d'aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire, vous avez raison, au-delà de l'histoire, il y a quand même beaucoup de règles, 613 commandements dans la Bible. Il y a des lois éthiques.
Vous voulez vous asseoir?
Et par exemple, l'interdiction...
Il y a deux places là-bas...
L'interdiction, par exemple, du prêt à intérêt, qui naît dans la Bible, c'est en réalité une façon de répartir ou de mieux partager la fraternité, la condition de contemporanéité, si j'ose dire, et le risque. En fait, on interdit de prêter intérêt avec un gage, parce que celui qui prête ne prend aucun risque, celui qui emprunte, il prend tous les risques. Donc, c'est un exemple. Mais on a travaillé, d'ailleurs, à l'Académie Sciences Morales et Politiques, sur cette question d'éthique et d'économie. Et j'avais traité la question dans ce que Bernard Lesambert et notre confrère Bertrand Coulomb nous avaient demandé d'aborder. Il y a dans la Bible des histoires, alors, qui sont des histoires humaines, je le répète, mais avec une façon de s'engager pour les faibles qui est assez extraordinaire. Par exemple, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » n'est pas qu'une phrase dans la Bible. C'est un engagement fort et on y met du concret. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça veut dire, c'est construire une société autour de cette aspiration. Donc, les questions économiques et les questions de pauvreté, par exemple, quelque chose de très simple. Si vous avez un champ, c'est dans la Bible. Si vous avez un champ, vous devez laisser un coin, quatre coins du champ, pour les pauvres. Et on ne précise pas la taille du coin. Ça peut être le dernier épi, c'est un coin, ça compte. Mais ça peut être beaucoup plus. Donc en fait, on vous dit, vous ne pouvez rien avoir si vous ne le partagez pas. Ben, c'est une façon de comprendre le monde que les théories économiques les plus modernes ont mis des millénaires à élaborer, c'est-à-dire avec une courbe qui dit, si vous appauvrissez vos acheteurs potentiels, ce qui est le problème, par exemple, de la mondialisation, vous avez des usines, et vous dites, c'est plus cher de fabriquer ici qu'au bout du monde. Donc vous allez faire fabriquer au bout du monde. Là, vous les mettez au chômage. Les produits qui sont fabriqués là, ils vont revenir chez vous. Ben, achetés par qui ? Par les fameux ouvriers. Mais comme ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus d'argent. S'ils n'ont plus d'argent, ils ne peuvent pas acheter vos produits au bout du monde. Donc, à un moment, il faut juste réfléchir. Que quand on se conduit avec dureté, cette dureté nous revient. C'est-à-dire que nous construisons la dureté dans laquelle nous vivons. Voilà pourquoi il y a marqué « Tu aimeras l'étranger, car tu as été étranger en terre d'Égypte ». Cette phrase qui peut paraître anodine, elle est en train de nous dire « Tu as vécu des choses, tu crois t'en être sorti ». Mais ça t'oblige à considérer que les autres aussi vivent une réalité que tu as connue. Et c'est valable pour toute chose dans la Bible.
Magnifique. Autre question. Autre question. Eh bien, cher Haïm Korsia, chers confrères et chers grands rabbins de France, je voudrais vous remercier avec infiniment de respect et d'admiration pour ce moment passé avec vous. C'était absolument merveilleux.
Merci beaucoup.
Vous avez fait raison.